France Inter, il est 19h17. Bon début de soirée, c'est avec Marion Lourdes et le téléphone sonne.
Merci et bonne soirée à vous Anaïs Feuga. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accompagner sur France Inter ce soir.
France Inter. Marion Lourdes. Le téléphone sonne.
Et ces derniers temps, le téléphone ne fait pas que sonner, figurez-vous. Ça vous a peut-être échappé, mais depuis une semaine, un nouveau système du géant Apple fait polémique, dénoncé par des milliers d'internautes et même des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden. Au départ, le principe est louable. Ce nouvel outil est censé aider le fabricant de l'iPhone à combattre la pédocriminalité. En clair, le système compare le code informatique de vos photos, des photos contenues dans un iPhone, à une base gérée par une association de défense des droits des enfants. Mais si la marque à la pomme peut scanner ce contenu aujourd'hui, elle pourra scanner n'importe quoi demain, s'inquiètent les défenseurs des libertés sur Internet. Pour eux, Apple vient d'accepter la création d'une porte dérobée dans ses appareils et le géant de l'informatique a beau démentir, le débat ne retombe pas. Sans doute parce qu'il fait écho à d'autres questions relancées cet été par le scandale Pegasus, ce logiciel espion israélien, ou même la mise en place du pass sanitaire accessible sur le portable. Suis-je bien sûr de ce petit appareil que je promène partout avec moi? Mon téléphone ne jouerait-il pas les indiscrets pour récupérer, voire vendre mes données? Et comment l'éviter? Question posée au téléphone sonne ce soir. La promis, on ne vous espionne pas, alors appelez-nous et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer cette émission, on retrouve Jackie qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Jackie.
Bonsoir Marion Lourdes, bonsoir France Inter.
Bienvenue sur France Inter.
Merci.
Alors, allez-y, c'est à vous.
Voilà, merci. C'est téléphone portable, un espion dans nos poches, hein, c'est bien ça le
titre de l'émission. C'est la question en tout cas.
Voilà. Alors je dirais que c'est à la fois un oxymore et un pléonasme. Un oxymore parce que le téléphone portable est synonyme normalement de liberté, de choix de vivre. Et en fait, on se retrouve avec des données qui sont collectées et revendues à des multinationales.
Donc il y a une contradiction d'après vous.
Très cher. Voilà. Et un pléonasme parce que à partir du moment où on autorise ces données à être collectées et revendues sans notre consentement ou presque pas, c'est un téléphone portable, oui, bien sûr, c'est un espion dans nos poches, c'est évident. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas urgent que la population demande aux législateurs de mettre en place une touche « no track, no données », c'est-à-dire pas de suivi, pas de données, une touche obligatoire pour que nous puissions nous déconnecter totalement de cet outil qui est complètement intrusif dans la vie maintenant de tous les jours.
Et petite question, Jackie, est-ce que vous avez un portable, vous ?
Ben oui, je vous appelle avec.
Donc vous n'êtes pas une contradiction près, si j'ai bien compris.
Ben écoutez, moi je fais attention, c'est vrai que je ne suis pas un maladif non plus du téléphone portable, je m'en sers, mais bon, je ne l'emmène pas partout avec moi. Je déconnecte le GPS, etc., etc. Donc, je m'en sers d'une manière utile pour aller à l'extérieur, etc. C'est très utile, mais la façon dont on occupe le terrain des données, des renseignements et de tout ce qui est collecte de la vie intime de chacun devrait être, on devrait pouvoir autoriser à chacun de se déconnecter par une touche très simple qui interdit la collecte de données qui sont revendues très cher par les multinationales et qui font beaucoup d'argent. Donc
merci.
C'est vraiment un business et c'est aussi de la déontologie.
Merci pour votre question et votre avis, Jackie. Et pour vous répondre ce soir, en studio avec nous à France Inter, Clémence Scotté, chef du service des affaires économiques de la CNIL, de la Commission nationale informatique et liberté. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à distance, je salue Grégoire Pouget, cofondateur et président de l'association Nothing to Hide. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je me tourne peut-être vers vous, Clémence Côté, pour commencer. Est-ce que ce serait possible, ce que Jackie appelle de ses voeux, une touche obligatoire sur les téléphones pour couper toutes les transmissions de données ?
Alors, je vais répondre en deux temps. En fait, la bonne nouvelle, c'est que la législation encadre déjà ces pratiques à différents niveaux. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est très compliqué d'offrir quelque chose de simple parce que l'écosystème des smartphones ne l'est pas. En fait, vous avez une multitude d'acteurs qui n'ont pas forcément de lien entre eux, qui d'ailleurs, parfois, ont des intérêts qui ne sont pas identiques et qui vont collecter vos données pour différentes raisons. De manière très pragmatique, hein, quand vous prenez votre téléphone, vous avez ce qu'on appelle un système d'exploitation. Ces systèmes, ils sont fournis
Donc, Android
par
Android pour Google,
voilà, exactement, ou l'iOS pour
iOS
Apple.
Pour Apple, c'est les deux gros acteurs. En fait.
Exactement. Et ces systèmes d'exploitation sont ceux qui permettent de générer votre GPS, donc votre localisation. Donc déjà à ce niveau-là, on a une collecte de données de la part de géants du numérique, mais au niveau du système d'exploitation. Derrière, vous avez des applications. Vous savez, vos applications pour réserver des hôtels, pour réserver un restaurant, pour tout un tas de choses, qui sont extrêmement gourmandes en données, qui généralement sont fournies à titre gratuit, mais on connaît bien l'expression « lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit », et qui, pour se rémunérer, justement, récupèrent toute une série d'informations qui sont produites en masse, hein, par le téléphone, donc la géolocalisation, un identifiant publicitaire pour permettre de vous reconnaître régulièrement, et donc tout ça pour monétiser. Donc ça rejoint complètement les préoccupations de l'auditeur. Donc, qu'a fait le législateur européen et le législateur français, hein, pour contrer ces pratiques, en tout cas pour redonner le pouvoir aux personnes concernées? C'est déjà, vous avez une chose qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, que la CNIL, qui est l'institution dans laquelle je travaille, donc la Commission Nationale Informatique et Liberté, se charge d'appliquer. Voilà.
En clair, pour les auditeurs, ce Règlement Général sur la Protection des Données, c'est ça qui fait apparaître sur nos téléphones des petites fenêtres où on doit dire je refuse ou non de céder mes données.
Alors, pas tout à fait, on va dire que c'est une législation jumelle du RGPD, mais qui répond exactement aux mêmes impératifs, à savoir redonner le pouvoir aux personnes. Et cette les petites interfaces que vous voyez apparaître avec le recueil du consentement, ça fait partie des choses, effectivement, que la CNIL vérifie aussi. Donc l'idée de cette législation est de dire que les données en question, elles n'appartiennent pas aux sociétés qui les récupèrent, mais elles appartiennent à la personne concernée. Et donc vous avez un droit discrétionnaire de dire oui, non, mais, ou demander une rectification et surtout de demander des explications par rapport à ce qu'il se passe. La difficulté, c'est qu'il y a tellement d'acteurs que mettre en place un bouton unique qui s'applique à l'ensemble des acteurs est techniquement extrêmement compliqué et ça ne permet pas de prendre en compte les différentes formes d'utilisation. Exemple type, parfois vous avez besoin de votre géolocalisation pour pouvoir vous guider dans les rues de Paris. Là, à ce moment-là, votre localisation, elle est nécessaire pour le service que vous demandez. Si vous mettez un bouton qui bloque complètement la transmission de cette information sans nuancer en fonction de la finalité de sa réutilisation, ça risque d'être problématique pour les utilisateurs classiques de smartphones. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est compliqué, il faut le reconnaître, hein, c'est que les CNIL européennes, par exemple, font des contrôles réguliers sur les applications. D'abord, on a pu, par exemple, envoyer des mises en demeure à des sociétés qui récupéraient massivement toutes les données de localisation de différentes applications pour les revendre à des tiers. Ils ont cessé de le faire.
D'accord, c'est suivi des faits.
Exactement. Ils ont mis en place un système de recueil du consentement avec une case à cocher. C'est simple. Voilà, une case à cocher que la personne ne pouvait ne pas cocher, donc refuser purement et simplement pour mettre aux normes leur système. La CNIL aussi a pu sanctionner Google en janvier 2019, justement sur le manque de clarté du système d'exploitation Android. Pour parler en clair, hein, c'est vos téléphones qui sont basés sur Android collectent de la donnée, c'est de la donnée qui est envoyée en partie à Google. L'idée était d'apporter plus de transparence. Donc elle a sanctionné à hauteur de 50 millions d'euros. Donc pour résumer mon propos, les outils sont là. Le problème, c'est que la réalité technique et même économique est complexe et que il faut cibler les actions. Et on a les outils pour le faire et surtout des institutions qui le font et qui ont des pouvoirs de sanction pour réaliser tout ça.
Grégoire Pouget, est-ce que vous en rêvez de ce bouton qui permet de bloquer la collecte de données, même si c'est un peu difficile à mettre en œuvre, hein. On a bien compris ce que disait Clémence Cottet de la CNIL.
Oui, bien sûr, j'en rêve. Je pense que je suis pas le seul. En fait, c'est en effet compliqué un tel bouton n'existe pas. Alors, il y a pas mal d'initiatives qui permettent quand même d'imiter un peu ce comportement-là. Le problème, c'est qu'en effet, il y a des remontées de données légitimes pour des applications, pour des développeurs qui créent une application, qui veulent savoir si elle fonctionne bien sur votre téléphone, si elle a pas de bug, etc. Et il y a des remontées de données qui sont complètement illégitimes, pour lesquelles les utilisateurs n'ont pas donné leur accord, qui sont en général des données qui permettent de faire du ciblage publicitaire. Alors, il y a quand même des petites solutions. Le pire système d'exploitation, c'est clairement Android, parce que donc il est édité par Google. Google a un business model qui est de faire de la publicité, de revendre des données. Donc tout est très concentré chez Android pour faire de la remontée de données. Récemment, il y a eu un gros bras de fer entre Apple, la société donc, qui est éditrice de l'autre système majoritaire, système d'exploitation iOS pour les iPhones. Donc, il y a eu un énorme bras de fer entre Apple et Facebook, gagné finalement par Apple il y a quelques mois, qui a, dans ses systèmes plus récents, ajouté la possibilité qui ressemble un peu à ce bouton-là, c'est-à-dire qui demande à chaque application le consentement de l'utilisateur pour utiliser un identifiant unique chez Apple, qui est un identifiant publicitaire. Donc Apple a commencé à mettre en œuvre certaines choses, c'est évidemment perfectible, et sinon évidemment, il y a d'autres systèmes d'exploitation qui sont un peu plus exotiques, mais dont on peut parler. Il y a un système d'exploitation qui est fait par une société française qui s'appelle /i/fondation, qui est /i/, c'est le nom du système d'exploitation, qui est un peu une espèce d'Android. Il y a les mêmes applications qui fonctionnent sur Android, mais qui est orienté pour une protection de votre vie privée. Donc c'est pas un téléphone qu'on trouve facilement dans le commerce. Il faut le commander en ligne, etc. Mais il y a quand même pas mal d'initiatives qui existent aujourd'hui, plus chez Apple que chez Google Android, ça c'est sûr et certain. Et il y a d'autres systèmes qui sont complètement dédiés à la protection de votre vie privée, donc dont /i/.
Juste une question, Grégoire Pouget, justement, concernant Apple et le dernier bras de fer qui a eu lieu cette fois à propos de cet outil de traçage des contenus pédopornographiques sur les téléphones. Est-ce que vous considérez qu'une ligne rouge est franchie et qu'il y a vraiment une porte dérobée qui permet en fait n'importe quelle atteinte à la vie privée si jamais ce système était récupéré par des pouvoirs politiques non démocratiques, par exemple, ou ce genre de choses?
Ouais, alors là, c'est pareil, il faut un tout petit peu nuancer, parce que ce qu'a mis en place Apple, c'est pas vraiment quelqu'un qui va regarder vos photos automatiquement, mais en fait, chaque photo a une empreinte numérique spécifique. Cette empreinte est comparée à une empreinte d'une base de données qui est la base de données d'une organisation américaine qui lutte contre la pédopornographie. Donc en fait, techniquement, Apple ne voit pas complètement, ne voit pas du tout les photos. Il voit juste, on va dire, un identifiant technique. Le problème avec ça, c'est que, en effet, bah, aujourd'hui, cette correspondance et l'utilisation de cet identifiant technique, qui encore une fois n'est pas la photo elle-même, est utilisée à des fins qui sont plutôt légitimes, hein, complètement, la lutte contre la pédopornographie. Le problème, c'est que, c'est en place dans le système d'Apple. Si demain, par exemple, prenons le cas de la Chine, hein, qui a demandé à Apple de supprimer des applications qui demandent la censure de l'Apple Store, Apple s'est exécuté parce qu'Apple fait de l'argent notamment et des affaires en Chine. Si demain la Chine demande à Apple de mettre en place cette exacte même fonctionnalité pour traquer sur tous les smartphones iOS de Chine la photo, par exemple une photo des événements de Tiananmen de 89 avec cet étudiant qui était face à un tank, et ben la même fonctionnalité qui aujourd'hui est utilisée à des fins complètement légitimes, bah, pourrait être utilisée pour censurer ce type de photos ou des contenus politiques ou même des photos de gens qui sont pas dans la norme de tel ou tel pays. Donc c'est avec la technique, le problème c'est que il faut pas non plus insulter l'avenir, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors ça peut être une pente glissante, ça peut ne pas être une pente glissante. C'est pour ça qu'en fait il faut absolument des garde-fous, et les garde-fous c'est pas les informaticiens qui les mettent en place, ce sont les législateurs.
Jean-Robert nous appelle de Villeurbanne. Bonsoir Jean-Robert.
Oui, bonsoir. Je vais répéter ce que monsieur a dit.
Ben oui, vous allez nous donner votre astuce, vous aussi.
Mais moi, avec l'accent français, parce que, en fait, le logiciel d'exploitation que j'utilise sur mon téléphone, moi, j'appelle ça /e/, parce que je suis français. Et c'est un système d'exploitation qui me garantit que j'ai aucun traçage. Il est fondé sur Android, mais en Android non googlisé. Donc, en fait, quand je sors d'un cinéma, on me dit pas « Ah, c'était bien le film ». De toute façon, je ne peux pas aller au cinéma en ce moment, j'ai pas de passe sanitaire. Mais ce que je veux dire, c'est que le traçage commençait à m'énerver moi aussi, et puis j'ai trouvé cette solution. Ça marche très bien pour monsieur. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on peut l'installer sur plein de téléphones ou on peut acheter le téléphone en ligne avec le truc déjà installé.
Mais voilà, est-ce que vous avez accès à toutes les applications?
Oui, parce qu'en fait, il y a des magasins d'applications qui existent et il y a même des moyens de contourner pour aller chercher des choses qui sont que sur Android. Mais on peut aussi répondre qu'on ne peut pas télécharger des, des applications si on a envie, quoi. Voilà.
Clémence Côté, est-ce qu'il y a effectivement des systèmes d'exploitation qui sont plus vertueux que d'autres? Est-ce qu'il y en a que vous préconisez en tant que CNIL ou alors que vous surveillez peut-être un peu moins que les autres? Alors,
la difficulté, c'est que la CNIL a des pouvoirs de sanction. Donc, dès qu'on se prononce sur une société en particulier, ça fait partie de cette partie-là de nos missions, mais pas du reste. Donc, je ne pourrais pas vous dire quel est le bon système d'exploitation, sauf si ces acteurs viennent nous voir pour obtenir une certification, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà. Par contre, on a aussi des propositions concrètes pour les usagers, notamment sur le site de la CNIL. La première étape pour protéger son iPhone, c'est d'abord d'aller dans le paramétrage et de voir concrètement, d'une part, comment la donnée de localisation est distribuée. Et vous avez des moyens simples de vous assurer que l'application ne collecte la donnée de localisation que quand vous en avez besoin. Donc, éviter qu'elle soit activée en permanence.
Donc là, je vais dans l'onglet paramètres, je clique sur les paramètres et là, géolocalisation.
Et normalement, ça dépend du système d'exploitation, mais normalement, vous avez un système qui vous renvoie vers les applications et qui vous indique si la localisation est en permanence collectée, jamais ou uniquement quand l'application est en cours d'exécution. Il y a une deuxième règle à laquelle on ne pense pas, c'est qu'il ne faut pas laisser en fond active. Enfin, vous voyez, vos applications, vous les mettez en route et vous oubliez qu'elles sont en route et vous passez à autre chose. Le problème, c'est que cette application activée, tant qu'elle est activée, elle va continuer à collecter de la donnée. Donc, un moyen simple d'éviter cela, c'est tout simplement de les désactiver, de les fermer quand vous n'en avez plus besoin. Et un troisième niveau qui est aussi assez facile à faire, c'est que vous avez un identifiant dans votre téléphone, qu'il s'agisse du système Android ou Apple. Je prends les grands systèmes d'exploitation.
Oui, les deux plus gros.
Voilà. Vous pouvez, pour Android, recycler cet identifiant, en fait, faire que initialement vous étiez identifié sous XYZ123, dire que cet identifiant doit être supprimé, ce qui permet d'éviter de vous suivre dans votre activité, ça coupe le lien avec votre personne.
Donc ça, couper l'utilisation du système d'exploitation.
Justement, sans le couper, et ça évite en fait d'avoir une traçabilité de votre navigation, parce qu'en fait vous coupez le lien et vous demandez à renouveler l'identifiant. Et le lien entre les deux identifiants théoriquement n'est pas censé être fait. Sur Apple, vous pouvez demander à ce que la publicité soit limitée, enfin plutôt que le suivi publicitaire soit limité. Et tout ça, c'est dans la partie traçage. Paramétrage. Lapsus révélateur. Mais donc tout se trouve dans la partie paramétrage et 5 minutes consacrées à cela, c'est déjà limite de manière assez conséquente les...
5 minutes toutes les semaines, 5 minutes tous les mois?
Alors, une fois que vous le faites, normalement, sur la partie paramétrage, c'est fait.
C'est définitif.
Après, effectivement, vous avez des applications qui peuvent vous demander un consentement spécifique par rapport à ce qu'elles souhaitent faire, et d'ailleurs qui peuvent et souvent doivent le faire. Et à ce moment-là, effectivement, il faut renouveler l'opération et dire oui ou non. Et ce sur quoi on travaille constamment, en tout cas au niveau de la CNIL, c'est de s'assurer qu'on vous propose effectivement j'accepte ou je refuse, et pas uniquement accepter les conditions générales d'utilisation et passer à autre chose.
Voilà. Grégoire Pouget, vous avez d'autres conseils à ajouter pour les auditeurs, pour effectivement essayer d'être un peu moins suivi, d'avoir moins de données qui partent dans la nature?
Oui, alors il y a un super projet, une très belle initiative qui s'appelle, alors je vais le dire avec l'accent anglais, Exodus Privacy, ou en français, donc ce serait Exodus Privacy, qui est un collectif, une association qui, pour chaque application Android, en fait, ils les ouvrent, ils font ce qu'on appelle du rétro-engineering, ils les épluchent et ils regardent combien il y a de traceurs. Les traceurs, c'est les petits programmes qui captent de la donnée et l'envoient vers les personnes pour les exploiter. Donc, ils regardent le nombre de traceurs, également les autorisations que les applications Android vous demandent. Par exemple, vous pouvez le faire, c'est-à-dire que sans avoir besoin d'aller sur ce site-là, dont je parle dans 30 secondes, quand vous installez une application, de type lampe de poche, par exemple, en général, votre smartphone vous demande cette application a besoin d'accéder au flash, ce qui est tout à fait normal. Cette application a besoin d'accéder à votre carnet d'adresses, ce qui pour une lampe de poche n'est pas terrible. Cette application a besoin d'accéder.
On commence à se méfier à ce moment-là.
Exactement. Et là, il faut commencer à un peu se méfier. Et donc, ce site exodusprivacy.eu.org recense énormément d'applications et vous donne pour chaque application le nombre de mouchards, le nombre de trackers, pardon, et le nombre d'applications demandées par le nombre de permissions demandées par chaque application.
Donc, ça, c'est bien, mais si on peut savoir combien il y a de permissions demandées, combien de mouchards, mais ça nous dit pas effectivement si on a accès à l'application sans accepter ces paramètres-là.
Alors, oui, je pense que l'écosystème d'Android est assez large pour, si vous voulez, il y a une centaine d'applications de lampe de poche, donc il y en a forcément une ou deux qui sont vertueuses. Bon, évidemment, ça prend un peu de temps à installer, mais sinon, il y a, en fait, vous pouvez tout à fait, plus simplement, vous installer l'application Exodus Privacy sur votre téléphone, et l'application Exodus Privacy va vous dire pour chaque application le nombre de moucheurs, le nombre de permissions demandées, et si d'aventure vous avez une application de type lampe de poche qui vous demande d'accéder à vos contacts, là, il faut la désinstaller.
Alors j'en profite pour glisser les petits conseils de certains auditeurs aussi qui nous ont écrit sur l'application France Inter. Franck qui nous dit « Il existe d'autres moteurs qui respectent la vie privée. Ecosia par exemple, qui en plus plante des arbres. » Et Manu qui dit « Il existe des alternatives à Android comme calixos.org ou lineageos.org. Ce qui est important, c'est le cryptage des données. » Voilà, mais c'est un débat autant politique que technique, dit-il, et effectivement. On va prendre au standard Patrice qui nous appelle de la Meuse. Bienvenue sur France Inter, Patrice.
Oui, bonjour à tous.
C'est à vous.
Eh bien, voilà, on est tous inquiets par rapport à ce qui peut être fait de nos données par les GAFAM, qui sont des gros lobbies. Moi, la question que je me pose, sans aller jusqu'à la Chine, est-ce qu'il n'y aurait pas des passerelles par rapport à des écoutes légales entre les GAFAM et les services d'écoute des forces de l'ordre, de la police, de la gendarmerie, avec éventuellement, c'est pas parce que c'est légal que c'est pas abusif, des utilisations vraiment plus que douteuses. Je pense notamment à des articles qui sont parus dans certains journaux d'investigation concernant des écoutes qui ont duré pendant plus de 5 ans, par rapport à des opposants au projet CIGEO de Bure, je ne vais pas commenter le projet, bien sûr, mais qui ont révélé qu'il y avait des écoutes qui correspondaient à 16 années d'écoute. Et donc, on parle de lobby, mais quelque part, depuis des années, l'État est vraiment le lèche-bot du lobby nucléaire. Et là,
c'est votre avis, Patrice.
Mais effectivement, bien sûr, puisque c'est moi qui vous parle.
Non, mais effectivement, vous venez de la Meuse, donc vous êtes sensibilisé au problème. Mais donc, ce que vous craignez, en fait, c'est une collusion entre d'éventuels services d'écoute des grands géants de l'Internet et des polices officielles de certains États.
Je suis d'accord que les services d'État écoutent évidemment pour le terrorisme. Je suis pas en train de cracher tout ce que fait le service de police, mais je pense qu'il y a aussi parfois des systèmes abusifs. D'ailleurs, les opposants à Bure ont été considérés comme des terroristes, hein, exactement de la même manière. Donc l'écoute, parfois, ça suffit, quoi.
Merci pour votre témoignage, pour votre avis, Patrice. Clémence Côté, alors est-ce que vous, à la CNIL, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas des usages de données des grands géants de l'Internet qui soient faits de façon abusive par la police ou d'autres?
Quand on parle d'intervention des forces de l'ordre ou même d'une finalité police-justice, hein, généralement c'est encadré strictement par le code de procédure pénale, par tout un tas de textes sur lesquels la CNIL se prononce également. Hein. On émet des avis qui généralement sont suivis par le ministère de l'Intérieur ou éventuellement défense sur tout ce qui est traitement en lien avec des finalités de défense, police-justice, etc. Donc là où je veux en venir, c'est que, sans parler de collusion, il y a aussi des mécanismes précis par rapport à des besoins précis qui sont encadrés et vérifiés, qui peuvent être mis en œuvre, mais je préjuge pas de... sans être excessivement optimiste, on est quand même dans un état de droit et il y a des garde-fous qui sont mis en œuvre, sans préjuger éventuellement d'abus que la CNIL n'aurait pas identifié.
On parlait par exemple de la lutte contre la pédophilie concernant Apple. Ça peut faire partie des motifs légitimes pour avoir accès à certaines données.
Alors, ça c'est une grande question et je voudrais rappeler que pour Apple, c'est uniquement aux États-Unis pour l'instant.
Oui, pour l'instant, effectivement.
Par contre, vous avez un règlement qui a fait débat au niveau européen, qui a fait assez peu de bruit, assez curieusement, qui consiste en fait à déroger à un principe général de confidentialité des communications pour permettre à ce qu'on appelle les fournisseurs de messagerie de détecter des actes pédopornographiques. Porno au sens large, du contenu pédopornographique ou des tentatives de contact avec des mineurs, etc. Toujours dans cet objectif effectivement de protection des mineurs qu'on peut parfaitement entendre et qui est parfaitement légitime.
Donc ça c'est un projet de directive européenne.
C'est un règlement qui est passé le 14 juillet et qui a été adopté sans forcément être largement relayé, mais qui concrètement en fait organise. Donne la possibilité aux fournisseurs de messagerie, ça peut être, je pense à Gmail, je pense à des fournisseurs de messagerie qui font partie de réseaux sociaux, donc de regarder les messages, de regarder leur contenu et d'essayer de détecter des contenus de nature en lien avec la pédopornographie. Ça a soulevé énormément de débats. Le contrôleur européen sur la protection des données avait pointé justement la difficulté d'encadrer correctement ce type de pratique parce que ça poursuit un objectif légitime, mais la technologie qui est utilisée peut être détournée assez facilement. Et dès lors que vous parler de détecter des contenus dans des messages, par définition, vous devez regarder tous les messages. Ça, c'est technologiquement, c'est très difficile de faire autrement.
Donc avec un algorithme qui va être paramétré pour.
Alors, avec tout un tas de garde-fous, et Apple a largement communiqué sur les garde-fous qu'ils avaient pu mettre en place d'un point de vue technologique, c'est ce qui était expliqué tout à l'heure. Ce qui est regardé, c'est pas l'image, mais l'empreinte de l'image. Mais ça reste une technologie qui va regarder dans vos messages, et vous avez un principe général au niveau européen et au niveau français, qui est le secret des correspondances et le secret des communications. Bon, désormais, c'est organisé de manière à ce que ces acteurs puissent quand même aller regarder pour un objectif que tout le monde reconnaît comme légitime, mais qui pose des questions en fait sur l'équilibrage entre protection de la vie privée, protection des correspondances et rôle des acteurs privés dans la détection de crimes, parce qu'on parle de la criminalité.
Et ce règlement, donc, il est applicable aujourd'hui en France ?
Alors, c'est un règlement, donc c'est application immédiate.
Oui. Voilà. Et donc, c'est à vous, la CNIL, de surveiller, justement, qu'il n'y ait pas de débordement.
Alors, c'est une question qui s'est posée, parce que dans le règlement en question. Alors, le contrôleur européen a bien précisé au législateur qu'il a été très, très frileux par rapport à l'adoption de ce règlement, qui était totalement imparfait. Ce qui a été acté, c'est que l'ensemble des CNIL européennes, qui est au niveau européen, enfin, ce qu'on appelle le Comité européen de la protection des données, devra expliquer de quelle manière ce règlement va s'appliquer. Bon, on va se pencher dessus certainement, mais ça reste à définir.
D'accord. Et Grégoire Pouget, là on parle de la France, mais est-ce que effectivement il peut y avoir aussi des rapprochements, des demandes d'informations de la part d'autres forces gouvernementales dans le monde par rapport aux géants de l'Internet ?
Alors, bien sûr, moi, je réponds sur deux points. Alors, le premier, c'est donc les Facebook, les Google, les Twitter, tous les grands services, tous les grands GAFAM ont régulièrement des demandes de nombreux États pour accéder au contenu, que ce soit d'une boîte mail, d'un compte Facebook ou autre. Tout ça est encadré encadré, notamment Facebook, Twitter et...
Ça dépend des pays, quand même.
Facebook, Twitter et Google, pardon, publie ce qu'ils appellent un transparency report ou un rapport de transparence qui liste par pays le nombre de demandes reçues, le nombre de demandes auxquelles ils ont accédé et le nombre de demandes qu'ils ont refusées. Alors ça, évidemment, ça pose quand même un problème parce que c'est Facebook ou Google qui décide ou non d'accéder à telle ou telle demande. C'est-à-dire que c'est un acteur privé qui répond à un État, donc à des gens qui sont notamment élus la plupart du temps. Donc ça pose un premier problème. Au-delà de ça, il faut pas attendre. Madame de la CNIL a parlé du règlement européen, mais depuis les attentats de 2015, il y a eu quand même un enchaînement, un empilement de lois sécuritaires. Alors, on sort un peu du sujet, mais c'est important d'en parler. Notamment la loi de renseignement de 2015 en France, qui demande aux opérateurs téléphoniques, à part qui vos communications passent avec votre smartphone ou votre ordinateur, de surveiller le trafic pour déceler ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire potentiellement des gens qui pourraient être de potentiels terroristes. Alors là, ça pose un autre problème pour le coup démocratique, c'est-à-dire que au lieu les services de renseignement, ils renseignent, c'est leur travail, mais au lieu de surveiller une partie ciblée de la population, on renverse la charge de la preuve et on surveille l'ensemble de la population. C'est plus de la surveillance ciblée, c'est de la surveillance de masse. Et ça pose un problème, mais bon, alors c'est un balancier qui va balancier les côtés très très sécuritaires et un peu moins côté liberté. Donc c'est un peu un problème. Et chaque opérateur a l'obligation d'installer un système potentiel qui peut révéler ces fameux signaux faibles. Et pour le coup, les renseignements n'ont pas à demander ni à Google, ni à Twitter, ni à Facebook quel site telle personne a consulté, mais ils peuvent récupérer des signaux faibles pour pouvoir éventuellement aller cibler telle ou telle personne. Et vraiment, encore une fois, je le dis, ça pose un problème démocratique puisqu'on a inversé la charge de la preuve. Au lieu de dire telle personne est potentiellement dangereuse, donc je la surveille, on dit on va surveiller l'ensemble des gens et on va déceler des comportements dangereux.
On va retrouver Mireille au Standard de France Inter. Bonsoir Mireille.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors écoutez, moi ma question est un petit peu plus simple si on veut. Moi j'aimerais savoir, quand une personne scanne le QR code, que voit-elle ? Et est-ce que c'est un appareil spécial qui scanne et qui enregistre ? Enfin, comment ça se passe ? Et alors, que lit-elle sur ce QR code. Et juste, si je peux rajouter, est-ce que ce QR code-là est le même sur l'attestation de vaccination Covid-19 avec un petit 2D-Duck en dessous, et la même chose sur le papier sur Amélie qu'on trouve sur Internet.
Donc là, voilà. On parle du pass sanitaire. Merci Mireille pour votre question. Clémence Côté, qu'est-ce qu'elle donne comme données qu'est-ce qu'il donne comme données ce pass sanitaire qu'on a pour beaucoup sur notre téléphone portable?
Alors, pour l'instant, on est donc l'application qui est utilisée par les personnes qui sont obligées de vérifier le pass sanitaire et tous anti-Covid vérif. C'est une application qui a été finalement construite par le ministère pour vérifier qu'est-ce qu'il voit. Pour tout ce qui n'est pas compagnie aérienne, donc qui ont besoin de voir exactement quelles sont les raisons d'un code vert, à savoir est-ce que vous êtes vacciné, est-ce que vous avez un test PCR, etc. Donc ces compagnies en ont besoin parce que dans certains pays, vous avez besoin d'avoir le détail de ce qui a amené un pass sanitaire, on va dire, valide pour pouvoir rentrer dans le pays. Donc en dehors de ces cas très précis qui rendent la chose nécessaire, dans les autres cas, vous n'avez accès qu'au nom, prénom et au fait que le pass est valide ou non. Donc en fait, si vous êtes vacciné ou si vous avez fait un test PCR, votre interlocuteur ne le sait pas.
Et c'est les seules données qui sont disponibles dans ce QR code.
C'est les seules données qui sont disponibles, effectivement. Alors qui sont accessibles à la personne qui va vérifier les choses via le pass. Et en aucun cas, votre restaurateur n'aura accès au fait que vous avez passé un test PCR plutôt que la double vaccination.
Alors au printemps, lors de la première version du pass sanitaire, la CNIL avait donné son avis et avait dit voilà, il faut que ce pass sanitaire il soit limité dans le temps, ça c'est le cas pour l'instant, il est censé durer jusqu'au 15 novembre, et qu'il ne s'applique pas aux actes, aux activités de la vie courante, comme par exemple les restaurants. Alors est-ce que la CNIL a changé d'avis sur ce sujet-là?
Alors on a dû émettre un deuxième avis le 7 août dernier, donc il y a très peu de temps justement sur l'extension du pass via le projet de loi et les décrets d'application qui ont été adoptés dans ce cadre. Et ce qui a été mis en avant, c'est que on a mis en avant différentes réserves par rapport à la mise en place du pass et notamment ce qui était accessible ou pas dans le cadre de la vérification. Après, sur le caractère proportionné de la mesure, le fait que ce soit limité dans le temps est toujours un critère déterminant. Et c'est d'ailleurs ce qui a été mis en avant par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, et qui ont pris en compte l'arrivée du variant Delta, qui a donné, un besoin urgent de mise en place de ce type de contrôle. Donc la CNIL a été assez critique. Elle a rappelé ses réserves de mai, justement, sur le pass sanitaire, tout en prenant acte que le Conseil scientifique mettait en avant un besoin urgent de renforcer les mesures en matière de dans le cadre de la crise sanitaire pour justifier l'extension du pass.
Grégoire Pouget, le pass sanitaire dans notre téléphone, dans l'application Tous Anti-Covid, et d'ailleurs l'application Tous Anti-Covid dans son ensemble, vous dites OK avec votre association Nothing to Hide?
Alors, moi, je vais pas me lancer sur le terrain du vaccin.
Non, on n'est pas sur le principe, mais vraiment sur le fonctionnement du pass sanitaire lui-même et les données que ça peut transmettre ou non.
Alors, c'est un peu compliqué parce que déjà le pass sanitaire, il y a le nom de la personne, le prénom, la date de naissance, le nombre de doses de vaccin injecté, la date de la piqûre, le vaccin employé, etc. Le fabricant du produit médical. Il y a quand même pas mal d'informations. Alors, il se trouve que avec l'application Tous Anti-Covid Vérif, on a accès, les restaurateurs ou à l'entrée des cinémas n'ont accès que au fait que est-ce que la personne peut passer ou non, son pass sanitaire.
Voilà ce que disait Clémence Côté. On ne sait pas si c'est parce que vous avez fait un test PCR négatif, parce que vous êtes vacciné ou parce que vous venez d'avoir la Covid.
Voilà. Mais si moi je prends un lecteur de QR code, parce qu'en fait le QR code, ce n'est jamais que comme une petite clé USB dans laquelle on a des informations et qu'on déchiffre avec telle ou telle application. Avec Tous Anti-Covid Vérif ne donne accès qu'à une partie des données, mais avec un autre type d'application, quelqu'un qui est un peu malveillant peut accéder à l'ensemble des informations qu'il y a sur le pass sanitaire. Bon, à quoi ça sert, j'en suis pas certain, mais alors pour répondre vraiment à votre question, le problème du pass sanitaire, à mon sens, c'est que en fait on délègue une fonction de surveillance à des gens qui dont c'est absolument pas le travail, et donc on bascule un peu, c'est quand même quelque chose qui vous fait basculer dans dans l'acceptation de la surveillance. Alors pour des raisons évidemment très légitimes.
Louable, hein, encore une fois,
toujours
oui.
À ce dilemme, c'est légitime, mais attention au dérapage. Il faut absolument que ce soit encadré. Donc c'est le Conseil d'État qui a dit OK, le pass sanitaire respecte la Constitution et c'est quelque chose qui est que temporaire et voilà, il faut absolument que ce soit encadré. Mais en effet, chez nos citoyens, on n'est pas ultra
adepte de cette façon de faire.
Voilà. Mais c'est une situation d'urgence.
Et j'avais une question par rapport à tous anti-Covid également. Est-ce que sur le traçage des cas contacts, si on accepte de déclencher tous anti-Covid l'application et de mettre en marche le Bluetooth, alors on peut nous dire tel jour à telle heure vous avez été en contact avec une personne qui avait la Covid et donc vous êtes cas contact. Est-ce que le fait d'utiliser le Bluetooth au lieu d'utiliser par exemple un système de géolocalisation, ça permet de mieux protéger la vie privée des personnes qui effectivement acceptent de déclencher cette fonction-là?
Alors, l'application Tous Anti-Covid, elle repose sur un protocole qui a été élaboré par une université en France qui respecte la vie privée, donc qui est le protocole Robert, qui est censé garantir la confidentialité des données. Le souci, c'est encore une fois, c'est qu'en fait, on a sur notre smartphone, vraiment qu'il y a un mouchard de poche. Hein, donc, on parlait tout à l'heure de la fuite des données, mais le smartphone, on lui délègue de plus en plus de fonctions, on va dire presque, je ne vais pas dire régalienne, mais pas loin. Donc, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un appareil de communication? Je n'en suis pas certain. Et surtout, l'efficacité de l'application Tous Anti-Covid, on a assez peu de recul là-dessus et il y a un excellent article d'une organisation qui s'appelle Algorithm Watch qui a étudié l'efficacité des différentes applications de traçage numérique type Tous Anti-Covid dans différents pays. Et en fait, j'invite vraiment les auditeurs qui sont intéressés par ça à jeter un coup d'œil à cet article. Il n'y a pas de conclusion ferme et définitive sur l'utilité du traçage numérique. Alors évidemment, il y a d'autres. Moi, je suis pas épidémiologue. Il y a d'autres moyens de faire, mais toujours est-il que Tous Anti-Covid et même ce papier donne des choses assez contre-intuitives. Notamment, c'est pas forcément les pays où il y a le plus d'installations où ça a le mieux marché. Donc, on a assez peu de recul. Et en fait, cette application, moi, je trouve que on est allé un peu dans ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. On s'est dit bon, on a un problème, on a des smartphones. Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser les smartphones pour résoudre le problème? Alors qu'il y a beaucoup d'autres pistes qui sont employées. Donc, Tous Anti-Covid, c'est à étudier. Encore une fois, on va pas insulter l'avenir, mais c'est pas forcément quelque chose qui a été extrêmement utile pour lutter contre l'épidémie.
Et à propos de la pandémie, qu'est-ce qu'on pense de ce chirurgien, on l'a appris aujourd'hui, qui s'est fait pirater son compte Amélie pour établir des faux passes sanitaires? Apparemment, il y a 178 passes, faux passes dans la nature qui ont été faits grâce au compte piraté, au compte Amélie piraté de ce chirurgien.
Alors, c'est-à-dire que plus il y aura d'infos, enfin, on va vers une civilisation où il y a de plus en plus de choses qui sont numériques. Donc, plus il y a de choses qui sont numériques et plus on ira vers ce genre de problème. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas dire attention, tous ont dit que ça marche pas, on va revenir au papier, etc. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer les gens aux usages numériques. Je pense que si ce chirurgien en question avait eu ce qu'on appelle un peu plus de littératie numérique, la littératie numérique, c'est les compétences qui vous permettent d'évoluer dans un monde numérique.
Bon, un meilleur mot de passe, en clair.
Voilà, des meilleurs mots de passe, peut-être une meilleure, ce qu'on appelle hygiène numérique, séparer ses activités pro de ses activités perso, parce qu'on prend pas les mêmes précautions quand on travaille et quand on est le domaine du loisir. Et voilà, c'est vers ça qu'il faut aller et de plus en plus vite, parce qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes de ce type-là.
Michel nous appelle de Rennes. Bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Je vous en remercie beaucoup. J'écoute avec beaucoup d'intérêt votre émission. La toute dernière information concernant le chirurgien qui s'est piraté, c'est exactement dans le sens de la question que j'avais à poser, à savoir, je pense à ma maman qui communique avec ses enfants, ses petits-enfants, voire le plus jeune à moins de 15 ans. Donc je pense que le moins de 15 ans est autant vulnérable que le plus de 80 ans. Ils n'ont pas de formation particulière en informatique, etc., ni en téléphonie, ni en gestion de codes secrets, etc. Ils communiquent en toute bonne bienveillance les uns avec les autres, prennent des nouvelles, notamment pendant l'été, mais à écouter ce qu'on entend, le chirurgien qui se fait pirater son compte, voilà, ça pose beaucoup de questions, et donc juste histoire de ramener le sujet par rapport à votre titre d'émission et que je trouve très intéressante au demeurant, et je vous en remercie.
Merci à vous Michel. On a l'impression que Michel s'inquiète un peu pour sa maman de 90 ans qui a pas forcément tous les codes du numérique. Clémence Côté, effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour ces publics là qui peut-être connaissent l'existence de la CNIL mais ne connaissent pas vraiment tous les moyens, tous les codes pour utiliser leur téléphone sans être tracés et sans voir leurs données partir dans la nature?
Alors, l'éducation au numérique, ça fait justement partie des missions de la CNIL. On publie énormément de contenu. La difficulté, il faut le reconnaître,
c'est... Vous les publiez sur Internet.
C'est ça, voilà, sur notre site. Après, on a des relais sur des partenariats dans les régions, etc., pour pousser vers l'éducation au numérique. Et ce qu'on peut faire aussi au niveau de la CNIL, c'est intervenir... vous avez l'aval, l'éducation, et l'éducation et l'aval, qui est aussi la surveillance, le contrôle, la sanction. Parce que si on revient à cette histoire du médecin qui donc a vu son compte piraté, il intervient. Vous avez beaucoup d'organismes qui interviennent en tant que responsables des données qu'ils ont en leur possession. Ils ont des obligations par rapport à ça. Et la CNIL est extrêmement vigilante via les plaintes qu'elle peut recevoir ou via les contrôles qui sont menés ou les notifications de violation. Parce qu'en fait, vous avez une obligation en France de notifier tout piratage à la CNIL, pour résumer les choses et vulgariser.
Non, mais donc vous voulez dire que dans ce cas-là, ça serait peut-être éventuellement la caisse d'assurance maladie qui serait fautive?
Alors ça, ce serait une question. Sociale. Franchement, il faudrait que je regarde plus en détail le cas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la CNIL devrait être mise au courant d'une manière ou d'une autre pour accompagner celui qui est à l'origine de la fuite et surtout qu'il puisse informer les personnes concernées. Parce que si on reprend les personnes de 80 ans, le pire dans cette situation est qu'elles ne sont pas au courant du problème. Et la CNIL veille à ce que les organismes qui se retrouvent victimes de ce type de victimes ou acteurs de ce type de fuite tiennent au courant les personnes concernées pour qu'elles puissent prendre des actions concrètes. Du type, vous perdez votre numéro de carte bleue, votre numéro de carte bleue doit être changé. Votre mot de passe part dans la nature, vous changez votre mot de passe. Des choses très concrètes.
Merci Clémence Côté, chef du service des affaires économiques de la CNIL. Merci Grégoire Pouget, cofondateur et président de l'association Nothing to Hide. Merci à tous les deux de nous avoir répondu ce soir sur France Inter. Merci aussi à l'équipe qui a préparé cette émission, Pierre de Certaine, Adèle Domas et Zoé Fauché. Un coup de chapeau aux indispensables standardiste de France Inter et à ceux qui assurent la technique ce soir, Ronan Mahé et Henri Bérec.